Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un livre fascinant.
Ah oui.
Bonheur marocain, chemin vers le bien-être.
D'accord.
Écrit par Adnan Benchakrun et publié en 2025.
Intéressant.
Il se penche sur les pratiques traditionnelles marocaines.
Oui.
Et explore comment elles peuvent aider, particulièrement les jeunes générations, à trouver le bonheur et le bien-être dans notre monde moderne.
Oui, un ouvrage qui a fait pas mal de bruit. Benchakrun explore comment ces traditions peuvent aider à trouver le bonheur.
Absolument. Et il aborde des sujets vraiment intéressants. Les rituels du hammam,
oui.
L'art du thé à la menthe, l'influence de la musique andalouse.
Ce qui m'a frappé dès le départ,
oui.
C'est la vision holistique du bien-être que Benchakrun met en avant.
Ah oui?
Il ne s'agit pas de recettes miracles,
non.
Mais d'une recherche d'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme.
Un concept qui résonne beaucoup en ce moment, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
On cherche tous un peu cet équilibre dans nos vies, souvent trépidantes.
Benchakrun nous rappelle que les clés de cet équilibre
oui.
se trouvent souvent dans des éléments simples, ancrés dans notre culture. La beauté des paysages marocains, les saveurs de la cuisine traditionnelle, les moments de partage avec nos proches.
Au fond, il nous invite à apprécier les petites choses du quotidien.
Exactement.
Celles qui nous nourrissent réellement.
Et il souligne l'importance de la transmission de ces traditions,
oui.
de ce savoir-faire ancestral, pour que les jeunes générations puissent s'en inspirer et construire leur propre bonheur.
Parlons un peu plus en détail de ces traditions.
Oui.
Le hammam, par exemple,
est
souvent perçu comme un lieu de purification.
Oui.
Mais Benchakrun semble aller plus loin que cette simple définition, non?
Oui, il décrit le hammam comme une véritable expérience sensorielle et spirituelle.
Ah ouais.
La chaleur intense, la vapeur enveloppante, les massages vigoureux, tout contribue à un lâcher-prise total, une purification profonde du corps et de l'esprit.
On imagine aisément l'effet relaxant d'un tel rituel. Mais est-ce que Benchakrun s'attarde sur des aspects plus spécifiques du hammam?
Oui.
Comme les bienfaits pour la peau, par exemple.
Absolument. Il met en avant l'utilisation du savon noir.
D'accord.
Un exfoliant naturel ancestral et du gasoul,
oui.
une argile minérale aux propriétés purifiantes et adoucissantes.
Intéressant.
Il explique comment ces éléments, combinés à la chaleur et à la vapeur, permettent de nettoyer la peau en profondeur,
oui.
de la débarrasser de ses impuretés et de la laisser douce et éclatante.
C'est intéressant de voir comment ces pratiques traditionnelles
oui.
s'appuient sur des éléments naturels aux vertus reconnues. On pourrait presque parler d'une forme de cosmétique ancestrale.
Tout à fait. Et Benchakrun souligne l'importance de perpétuer ces savoirs, de ne pas les perdre au profit de produits industriels souvent moins respectueux de notre corps et de l'environnement.
Passons maintenant au thé à la menthe.
D'accord.
Une boisson emblématique du Maroc. On sait tous que c'est un moment de partage, de convivialité.
Oui.
Mais comment Benchakrun aborde-t-il ce rituel dans son livre?
Il met bien sûr l'accent sur cet aspect social.
Oui.
Le thé à la menthe comme symbole de l'hospitalité marocaine, un geste de bienvenue et de partage offert à chaque invité.
C'est un peu comme un langage en soi.
Oui.
Un signe de respect et d'amitié.
Exactement. Mais Benchakrun va plus loin.
Oui.
En s'intéressant aux vertus du thé à la menthe pour notre bien-être.
Ah oui, c'est vrai que la menthe est connue pour ses propriétés apaisantes et digestives.
Précisément. Il explique comment la combinaison de la menthe fraîche et du thé vert,
oui.
riche en antioxydants,
contribue
à une meilleure digestion,
oui.
apaise les tensions nerveuses et favorise la détente.
Donc, au-delà de l'aspect social, le thé à la menthe est aussi un véritable allié pour notre santé physique et mentale.
Tout à fait. Et Benchakrun encourage ses lecteurs à intégrer ce rituel dans leur quotidien. À prendre le temps de savourer une tasse de thé à la menthe,
oui.
seul ou en compagnie de leurs proches, pour un moment de pause et de bien-être.
Une invitation à ralentir le rythme,
oui.
à se reconnecter à des plaisirs simples et authentiques, et la musique andalouse. Quel rôle joue-t-elle dans cette quête du bonheur à la marocaine?
Benchakrun la décrit comme une mélodie pour l'âme.
D'accord.
Une musique capable de toucher notre être profond et de nous transporter vers un état de paix intérieure.
On imagine bien l'effet apaisant de ces mélodies envoûtantes.
Oui.
Riches en nuances et en émotions.
Et il souligne l'importance de la transmission de cet héritage musical aux jeunes générations.
Oui.
Afin qu'elles puissent à leur tour se laisser bercer par ces rythmes ancestraux et en découvrir les bienfaits.
J'imagine qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter passivement cette musique.
Oui.
Mais de s'en imprégner, de la laisser vibrer en soi.
Tout à fait.
Benchakrun encourage à assister à des concerts. à participer à des ateliers, à apprendre à jouer d'un instrument traditionnel. Bref, à s'immerger dans cet univers musical et à le vivre pleinement.
C'est une façon de se reconnecter à ses racines culturelles
oui.
et de s'ouvrir à de nouvelles dimensions du bien-être. Bal Chakroun abordait-il d'autres aspects de la culture marocaine comme source de bonheur ?
Oui, il consacre un chapitre entier à la khizana marocaine
D'accord.
et à son rôle dans l'épanouissement personnel.
Mmh.
Il explique comment la création d'objets artisanaux,
oui.
qu'il s'agisse de poterie,
mmh.
de tissage, de travail du bois ou du cuir,
oui.
peut être une forme de méditation active, favorisant la concentration, la créativité et la patience.
Il a ce côté très manuel, très ancré dans la matière,
oui.
qui permet de se concentrer sur le moment présent, de laisser de côté les soucis du quotidien.
Exactement.
Et Ben Chakroun souligne que la satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains,
oui.
de voir un objet prendre forme sous ses doigts,
mm-hmm.
procure un sentiment de fierté et de bien-être profond.
On retrouve cette idée de transmission.
Oui.
De savoir-faire ancestral qui se perpétue à travers les générations.
Tout à fait. Et Ben Chakroun encourage les jeunes générations à s'intéresser à ces artisanats traditionnels.
Oui.
À apprendre auprès des anciens.
Mm.
À perpétuer ces gestes qui relient l'homme à la matière et à la beauté du monde qui l'entoure.
C'est une invitation à ralentir.
Oui.
À prendre le temps de créer, de se reconnecter à la nature et à ses rythmes.
Absolument. Et il ne faut pas oublier l'aspect social de l'artisanat.
Non.
Ben Chakroun nous rappelle que ces savoir-faire se transmettent souvent au sein d'une communauté.
Oui.
D'un village, créant ainsi du lien social, de la solidarité et un sentiment d'appartenance.
On voit bien que cette quête du bonheur à la marocaine est indissociable de la dimension collective.
Du partage et de la transmission.
Oui, et Ben Chakroun nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans la satisfaction individuelle.
Non.
Mais aussi dans la contribution au bien-être de la communauté, dans la transmission de valeurs et de savoirs qui nous relient les uns aux autres.
C'est une vision très inspirante
oui.
qui nous pousse à réfléchir sur notre propre rapport au bonheur, à notre culture et à notre communauté.
Et ce n'est qu'un aperçu des idées développées par Ben Chakroun dans son livre.
Oui.
Il aborde également l'importance de la nature, du mouvement, de l'alimentation.
On a hâte d'explorer tout cela ensemble. Mais avant de poursuivre notre plongée dans bonheur marocain,
oui.
on va prendre un petit moment pour assimiler toutes ces informations. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration.
À tout de suite. On reprend notre exploration du bonheur à la marocaine. On a déjà pas mal parlé de l'importance du corps et de l'esprit, mais Ben Chakroun ne s'arrête pas là.
Ah non ?
Il met aussi l'accent sur une autre dimension essentielle, l'âme.
Ah oui, la dimension spirituelle. Un aspect souvent négligé dans notre monde moderne, mais qui semble pourtant primordial pour Ben Chakroun.
Exactement. Il nous rappelle que le bien-être de l'âme est indissociable de la spiritualité, de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et au Maroc, cette spiritualité est souvent ancrée dans la tradition musulmane.
Ben Chakroun encourage-t-il une pratique religieuse spécifique pour cultiver cette dimension spirituelle ?
Pas nécessairement. Il met davantage l'accent sur l'intention, la sincérité, la recherche d'une connexion profonde avec le divin, quelle que soit la forme que cela prend. Il évoque bien sûr la prière, mais aussi la méditation, la contemplation de la nature, la pratique de la gratitude.
Des pratiques qui invitent à l'introspection, à la recherche d'un sens profond à sa vie.
Tout à fait. Et Ben Chakroun souligne que cette quête de sens, cette connexion à quelque chose de plus grand que soi, est essentielle pour apaiser l'âme, pour trouver la paix intérieure.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il relie cette dimension spirituelle au bien-être global, à l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme.
Oui, il explique que lorsque l'âme est nourrie apaisée, cela se répercute sur notre état physique et mental. On ressent un sentiment de calme, de sérénité qui nous permet de mieux gérer le stress, les émotions négatives et d'aborder la vie avec plus de positivité.
C'est une vision holistique du bien-être qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain.
Exactement. Et Ben Chakroun nous rappelle que chaque individu est unique, que le chemin vers le bonheur est personnel, mais que la spiritualité peut être un guide précieux dans cette quête.
On a parlé du hammam du thé à la menthe de la musique andalouse. Ben Chakroun évoque-t-il d'autres pratiques traditionnelles qui favorisent le bien-être de l'âme ?
Oui, il consacre un chapitre entier à la méditation, en l'abordant sous un angle spécifiquement marocain.
La méditation, on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais j'avoue que je l'associe souvent aux traditions orientales. Comment Ben Chakroun l'ancre-t-il dans la culture marocaine ?
Il met l'accent sur la richesse et la diversité des pratiques méditatives au Maroc. Il nous explique que la méditation ne se limite pas à s'asseoir en silence et à observer sa respiration. Elle peut prendre des formes très variées, s'inspirer des éléments naturels, des rituels ancestraux, des pratiques spirituelles.
C'est intéressant cette idée d'une méditation qui s'adapte à la culture, au contexte, à la personnalité de chacun.
Tout à fait. Ben Chakroun nous invite à explorer différentes formes de méditation, à trouver celle qui nous convient le mieux.
Pourrait-il nous donner quelques exemples concrets de pratiques méditatives marocaines?
Bien sûr. Il parle par exemple de la contemplation des paysages grandioses du Maroc. Les dunes du Sahara, les montagnes de l'Atlas, les côtes sauvages de l'océan Atlantique.
S'immerger dans ces paysages majestueux, se laisser envahir par leur beauté et leur silence, ça a quelque chose de méditatif en effet.
Exactement. Ben Chakroun nous encourage à nous imprégner de ces paysages, à observer les jeux de lumière, les formes des couleurs, à écouter les sons de la nature.
Une sorte de méditation en pleine conscience en quelque sorte.
Oui, il s'agit d'être pleinement présent à ce qui nous entoure, à chaque sensation, chaque perception. Et en faisant cela, on apaise l'esprit, on se libère des pensées parasites, on se recentre sur l'instant présent.
Ben Chakroun mentionne-t-il d'autres pratiques méditatives plus ancrées dans les traditions marocaines?
Oui, il évoque par exemple l'utilisation des huiles essentielles dans la méditation.
Ah oui, les huiles essentielles, un véritable trésor du Maroc.
Ben Chakroun nous explique que certaines huiles essentielles, comme l'huile d'argan, l'huile essentielle de fleur d'oranger ou l'huile essentielle de rose, ont des propriétés relaxantes et apaisantes qui favorisent la détente et la concentration.
On peut imaginer diffuser ces huiles essentielles pendant la méditation pour créer une atmosphère propice à la relaxation.
Tout à fait. Ben Chakroun suggère de déposer quelques gouttes d'huile essentielle sur un moucheur, de le respirer profondément ou de l'utiliser dans un diffuseur. Il précise que chaque huile essentielle a ses propriétés spécifiques et qu'il est important de se renseigner avant de les utiliser.
Donc la méditation à la marocaine, c'est un mélange de contemplation, de la nature d'utilisation des huiles essentielles et bien sûr de spiritualité.
Oui, Ben Chakroun nous rappelle que la méditation au Maroc est souvent liée à la prière, à la connexion avec Dieu.
C'est une dimension importante, car la spiritualité est au cœur de la culture marocaine.
Et Ben Chakroun nous montre que la méditation peut être une façon de nourrir cette spiritualité, de se rapprocher de Dieu, de trouver la paix intérieure.
On a beaucoup parlé de pratiques individuelles pour cultiver le bien-être. Mais Ben Chakroun aborde-t-il aussi la dimension collective du bonheur à la marocaine?
Absolument. Il consacre un chapitre entier à l'importance des liens sociaux, de la convivialité, du partage dans la culture marocaine.
C'est vrai qu'au Maroc, la vie sociale est très riche, les moments de partage sont nombreux.
Tout à fait. Ben Chakroun nous explique que ces moments de convivialité, ces liens forts avec la famille, les amis, la communauté sont essentiels pour le bien-être. Ils nous procurent un sentiment d'appartenance, de soutien, de sécurité affective qui nourrit l'homme et nous aide à traverser les épreuves de la vie.
On peut penser aux repas en famille, aux fêtes traditionnelles, aux rassemblements dans les cafés.
Exactement. Ben Chakroun nous décrit ces moments avec beaucoup de poésie, en soulignant la chaleur humaine, la générosité, l'entraide qui caractérisent les relations sociales au Maroc.
C'est une vision du bonheur qui s'inscrit dans la collectivité, dans le partage, dans la solidarité.
Oui, et on nous rappelle que ces valeurs sont précieuses, qu'il faut les cultiver, les transmettre aux jeunes générations.
On voit bien que cette quête du bonheur à la marocaine est indissociable de la dimension collective du partage et de la transmission.
Tout à fait. Ben Chakroun nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans la satisfaction individuelle, mais aussi dans la contribution au bien-être de la communauté, dans la transmission de valeurs et de savoirs qui nous relient les uns aux autres.
C'est une vision très inspirante qui nous pousse à réfléchir sur notre propre rapport au bonheur, à notre culture et à notre communauté.
Et on n'a fait qu'effleurer la surface de ce que Ben Chakroun explore dans son livre. Il aborde aussi l'importance de l'alimentation, du mouvement, de la connexion à la nature.
On a hâte de découvrir tout cela ensemble. Mais avant de poursuivre notre plongée dans Bonheur marocain, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration.
On reprend notre exploration. On a beaucoup parlé de tradition, de spiritualité, mais Ben Chakroun n'oublie pas l'importance du mouvement et de la nature pour le bien-être.
Ah oui, c'est essentiel pour l'équilibre. On en parlait tout à l'heure. On a tous besoin de bouger, de se reconnecter à la nature pour se sentir bien.
Exactement. Et au Maroc, vous avez la chance d'avoir des paysages magnifiques.
Ah oui.
Qui se prêtent à merveille à ces activités. Ben Chakroun encourage d'ailleurs les lecteurs à explorer ces paysages, que ce soit à travers la randonnée, le trekking ou tout simplement en passant du temps dans la nature.
Je vois bien l'image, se promener dans les montagnes de l'Atlas, respirer l'air pur, admirer les panoramas grandioses, ça a quelque chose de ressourçant.
Tout à fait. Et Ben Chakroun ne se contente pas de décrire la beauté de ces paysages. Il explique comment la marche en nature, le contact avec les éléments, peuvent avoir un impact positif sur notre mental et notre physique.
Il parle des bienfaits de l'exercice physique.
Oui, bien sûr. Mais il va plus loin. Il explique que la nature a un pouvoir apaisant, presque méditatif. Il encourage à observer la faune et la flore, à écouter le chant des oiseaux, à sentir les parfums de la terre et des plantes.
Une sorte de méditation en mouvement, comme on en parlait tout à l'heure.
Exactement. Et Ben Chacon nous rappelle que cette connexion à la nature est essentielle pour retrouver un rythme de vie plus sain, plus en phase avec nos besoins profonds, loin du stress et de l'agitation de la vie moderne.
Cette idée de ralentir, de se reconnecter à la nature pour mieux se reconnecter à soi-même, c'est intéressant.
Hein, tout à fait. Et Ben Chacon va encore plus loin.
Oui.
En proposant de créer un espace de nature chez soi, même en ville.
Ah oui.
Il consacre d'ailleurs un chapitre entier à la création d'un jardin méditerranéen.
Un petit coin de verdure, un havre de paix au milieu de la jungle urbaine.
Exactement. Il donne des conseils pour choisir les plantes, les matériaux, aménager l'espace, de façon à créer une ambiance apaisante et harmonieuse.
J'imagine un jardin, avec des oliviers, des citronniers, des fontaines, des petites allées fleuries.
Oui, un lieu où l'on peut se détendre. Méditer, recevoir des amis, cultiver ses propres légumes et herbes aromatiques.
Un jardin qui nourrit le corps et l'esprit.
Exactement. Et Ben Chacon souligne que le jardinage, c'est une activité bénéfique à plusieurs niveaux. C'est un exercice physique doux. C'est un contact direct avec la nature. C'est une source de satisfaction et de fierté.
Et puis ça permet de créer un espace de beauté chez soi. Un lieu qui nous ressemble et qui nous fait du bien.
Tout à fait. On a beaucoup parlé de l'extérieur.
Du corps.
De la nature. Mais Ben Chacon nous invite aussi à nous pencher sur notre environnement intérieur, notre maison.
Ah oui, l'aménagement de notre espace de vie. Un impact sur notre bien-être, c'est certain.
Ben Chacon propose de créer un espace zen chez soi.
D'accord.
En s'inspirant de l'esthétique marocaine traditionnelle, il parle de l'utilisation de matériaux naturels, de couleurs douces, de lumières tamisées, d'objets artisanaux.
Je vois bien l'image. Des tapis berbères aux motifs géométriques, des lanternes en fer forgé, des coussins brodés, des poteries en terre cuite.
Exactement. Il s'agit de créer une ambiance chaleureuse, apaisante. Propice à la détente et à la méditation, un lieu où l'on se sent bien, en harmonie avec soi-même.
C'est une belle idée. Cette invitation à créer un espace zen chez soi, un refuge où l'on peut se ressourcer et se reconnecter à l'essentiel.
Et c'est aussi une façon de faire entrer un peu de la beauté et de la sérénité du Maroc dans son quotidien.
Eh bien voilà, on arrive au terme de notre exploration du livre « Bonheur marocain, chemin vers le bien-être d'Annan Ben Chacon ».
Un ouvrage riche et inspirant qui nous invite à redécouvrir la culture marocaine comme source de bonheur et d'épanouissement.
Ben Chacon nous a offert un véritable voyage à travers les paysages, les traditions, les saveurs, les couleurs du Maroc. Un voyage qui nous a permis de nous reconnecter à l'essentiel, à la simplicité, à la beauté des choses qui nous entourent.
Un voyage qui nous a appris que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir, jour après jour.
Et que ce chemin, on peut le choisir de parcourir avec joie, en s'appuyant sur la sagesse et la beauté de la culture marocaine.
Alors, si cette plongée dans le bonheur à la marocaine vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos impressions et à explorer plus en profondeur les idées de Ben Chacon.
À bientôt pour de nouvelles explorations.